explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Pas besoin de remonter à la nuit des temps pour percevoir la dimension destructrice des séismes. Rien que depuis le début des années 2000, les tremblements de terre ont fait près de 700 000 victimes. Sumatra en 2004, Chine en 2008, Italie en 2009, Haïti en 2010, Japon en 2015. À chaque fois que surviennent ces catastrophes devant le nombre de victimes et l'ampleur des destructions, une question nous vient. Comment se fait-il que l'on ne voit pas venir un phénomène aussi important ? Qu'une telle débauche d'énergie éclate sans que nous ayons pu le prévoir. Alors que savent les scientifiques aujourd'hui de la mécanique des séismes ? Les connaissances en la matière ont considérablement progressé au cours des 15 dernières années. Cela signifie-t-il qu'un jour, il sera enfin possible de les prédire ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le sismologue Pascal Bernard, qui part régulièrement en mission dans les zones sismiques pour tenter de percer les derniers mystères des soubresauts de notre planète.
Sur France Inter...
tout va bien, maman et Ya.
Daniel Fievé.
Dans la grotte.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Pascal Bernard.
Bonjour.
Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Vous venez de publier « Pourquoi la Terre tremble » aux éditions Belin. Et vous allez nous dire ce que vos missions en Grèce et au Chili plus particulièrement vous ont permis de comprendre sur les séismes. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. Et puis à 17h, l'écrivain voyageur amoureux des chevaux Jean-Louis Gouraud nous emmènera à la découverte des cultures équestres à travers le monde. Voilà pour le parcours du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux.
France Inter.
Séisme, tsunami et inquiétude dans le Pacifique Sud. C'est à 100 km des côtes chiliennes que la Terre a bougé ce matin. Il y a eu un séisme sous-marin à 35 km de profondeur sous la mer. À 100 km de là, la ville de Concepción, puis toute la côte chilienne, a ressenti la secousse. On dénombre à l'heure actuelle 122 morts au Chili. La secousse a été de 8,8 sur l'échelle de Richter, ce qui est considérable. Une alerte au tsunami a été déclenchée pour toute la zone pacifique jusqu'en Polynésie française et au-delà.
Nous étions le 27 février 2010 dans le journal de 13h de France Inter. C'est un lieu que vous connaissez tout particulièrement, là où s'est déroulé ce séisme particulièrement dévastateur. Vous vous y êtes rendu, Pascal Bernard, juste après le séisme.
Oui, juste après le séisme, 2 semaines après le séisme, une mission d'urgence a été montée par le CNRS au niveau français, mais aussi en collaboration avec nos collègues chiliens et évidemment des équipes étrangères, allemandes, américaines qui sont arrivées aussi un petit peu après nous. Et l'idée, c'était de densifier les sismomètres encore assez épars à l'époque dans cette région-là pour bien comprendre ce qui s'était passé, mesurer la position des répliques, leur magnitude et voir un petit peu comment toute cette cassure pouvait évoluer dans le temps, dans les semaines ou les mois qui allaient suivre.
Densifier les sismomètres, c'est-à-dire en mettre davantage.
Il n'y en avait que quelques-uns à l'époque et en nombre insuffisant pour bien comprendre ce qui pouvait se passer.
Et comme vous êtes arrivé juste après le séisme, vous avez à votre tour vécu un tremblement de terre, ce qu'on appelle une réplique du tremblement de terre.
Oui, on part sur le terrain, donc on met plein de sismomètres dans le véhicule, puis on arrive là dans l'endroit un petit peu reculé pour éviter que les appareils soient perturbés par le bruit ambiant des routes. Et donc on se met dans des endroits reculés. Donc on avait trouvé une colline, un vignoble magnifique, et on s'est mis tout en haut de la colline. Il y avait des gros rochers là qui nous assuraient que le couplage avec le sol serait très bon, avec des mesures très très fines. Ouais. Et donc c'était la première station qu'on installait, et c'était une fin d'après-midi, un soleil magnifique. On enterre le sismomètre, on commence à brancher tous les câbles, et puis je vais pour brancher les câbles de la batterie, et à ce moment-là, je perds l'équilibre, et il y a un séisme sans aucun bruit, mais des mouvements assez importants, de plusieurs dizaines de centimètres en apparence, hein, et on voyait le sol bouger, onduler, une période de 1 seconde, 2 secondes, très lent, sans bruit. 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, et ça s'est arrêté à peu près au bout de 15-20 secondes. Et tout le monde en était 4 ou 5 autour des stations, et on était tous absolument figés, on observait, on regardait autour. C'était absolument magique. Ouais. Mais la magie est vite tombée, parce qu'on s'est dit, oula, ça c'est un gros séisme. Le fait qu'on n'ait pas de vibrations fortes, haute fréquence, de grondement, nous faisait dire que c'était lointain. La durée nous faisait dire que c'était un gros. Donc un gros lointain, on a essayé de voir par rapport à la durée, c'est une grosse magnitude. Et donc on a cherché, on s'est dit, bah, c'est peut-être du côté de Santiago, on était à 150 km, ou plus au sud, du côté du séisme qui avait lieu 2 semaines avant. Et finalement, c'était bien au sud, heureusement pour nos collègues de Santiago et pour toute la ville. Mmh. Par contre, on est arrivé le soir même dans cette région touchée par ce séisme de l'après-midi. C'est un magnitude 7. En fait, c'était 2 magnitudes 7 à 10 secondes d'intervalle à peu près. On est arrivé là de nuit. C'était un blackout total dans la ville de Pichilemu. Les gens avaient fui les maisons, un peu choqués par le premier séisme. Évidemment, ils étaient repartis dans les collines pour bivouaquer. On a trouvé un petit hôtel avec un gardien de nuit qui balayait les débris des vitres pour nous accueillir dans un des petits logements. Et là, toutes les minutes, boum, boum, une explosion, un coup de marteau sous les fesses et un espèce de grondement qui dure une fraction de seconde. Et ça, c'était les petites répliques, les tout petits séismes qui suivent le gros. Et là, vu le bruit et vu la durée, on était vraiment au-dessus de la zone qui venait de casser.
Oui. Donc il y a eu 2 répliques finalement. Il y a eu cette première grosse réplique, hein, presque aussi importante que le premier séisme. Et puis ensuite, ces coups de marteau, comme
alors,
vous dites.
Ces coups de marteau, c'est les répliques des répliques.
Ouais.
Chaque séisme entraîne ses propres répliques, donc vous avez des répliques comme ça en cascade.
Mais alors, c'est le moment, alors vous nous l'avez fait vivre vraiment aux premières loges, mais c'est le moment maintenant de nous expliquer scientifiquement pourquoi un séisme est très souvent suivi d'autres séismes qui peuvent être importants ou pas d'ailleurs.
Alors, un séisme, c'est la rupture d'une faille, le glissement très rapide des 2 blocs rocheux autour de cette faille. Alors, si la faille, par exemple, a une magnitude de, comme là, 8,7, comme pour celui du Chili en 2010, c'est une faille qui fait, bon, disons, de 200 km de long, elle glisse de 5 mètres en moyenne, de part et d'autre, hein, les blocs bougent, mais bougent très rapidement, quelques dizaines de secondes, ça y est, c'est coincé, ça se recoince. Mais en bougeant, évidemment, ça envoie des ondes très fortes, et c'est ça qu'on ressent en premier lieu. Mais ces ondes très fortes vont perturber les failles voisines, ou même des morceaux de la faille qui essayent de résister, mais qui ne résistent pas trop longtemps, et qui vont casser quelques heures après, quelques jours après.
En fait, ça se rééquilibre. Donc, on rééquilibre une certaine tension, mais on en crée d'autres ailleurs.
Voilà, et absolument.
Une sorte de jeu de domino, un peu.
Un jeu de domino. On redistribue les efforts tectoniques et on bouscule tout ça. On fragilise les failles, on les bouscule, et donc elles finissent par casser une heure, ou un jour, ou 2 mois plus tard.
Ouais. Ces failles, elles sont homogènement réparties tout au long des plaques. On a l'impression quand même qu'il y a des failles qui bougent plus que d'autres.
Alors il y a surtout des frontières de plaques qui sont plus actives, au sens où la mobilité des plaques de part et d'autre de cette frontière de plaques est beaucoup plus grande. Il y a des zones de frontières de plaques où de part et d'autre les blocs ne bougent qu'à 1 cm par an, 2 cm par an, comme c'est le cas plutôt en Méditerranée, etc. Et puis, il y a des zones où ça bouge à 5, 10 cm par an, c'est le Pacifique. Et donc là, on a des séismes plus gros et plus fréquents.
Ce sont donc les failles au niveau du Pacifique qui sont les plus actives.
Alors, les failles au niveau du Pacifique, effectivement, les zones de subduction autour du Pacifique sont les plus actives.
Subduction, vous nous rappelez ce que c'est?
Alors, la subduction, c'est une zone de frontière de plaques où les plaques ont la bonne ou mauvaise idée de converger l'une vers l'autre, mais ça se passe pas très bien. Et au lieu de glisser l'une sous l'autre tranquillement, eh bien, ça coince et ça se décoince à chaque séisme. Voilà. C'est une zone de plongée de la croûte et de la lithosphère.
Alors, il y a ces zones de failles particulièrement actives, mais pourtant, il arrive que des séismes surviennent au milieu de plaques tectoniques, c'est-à-dire loin des failles. Alors là, qu'est-ce qui les explique, ces séismes-là?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les failles ne sont que des marqueurs de ces mouvements. Les roches sont déformées partout. Elles sont déformées au cœur des plaques et elles sont déformées au voisinage des frontières de plaques. Ce qui se passe, c'est qu'au voisinage des frontières de plaques, en raison de la présence des failles, c'est des zones fragiles. Et donc, pour un même niveau d'augmentation de contrainte, si vous tirez sur 2 élastiques, il y en a un qui est abîmé et l'autre qui n'est pas abîmé, celui qui est abîmé va vous péter dans les doigts et l'autre va résister. Mais in fine, celui qui est pas abîmé, il va finir par s'abîmer à force de travailler, de s'étendre et de se comprimer. Et ça peut donner donc des séismes beaucoup plus rares au cœur des plaques.
Mais qui sont plus rares, est-ce qu'ils peuvent être aussi importants ou ils sont forcément de magnitude plus faible, ces séismes intraplaques?
On connaît des séismes de magnitude dépassant 7,5, atteignant 8 au cœur des plaques. ça. Donc, mais il y a des failles dessus. Il y a des failles, mais ces failles sont très vieilles, très cimentées. Elles semblent inactives ou peu actives. Et en fait, tout d'un coup, elles cassent après 10 000 ans de silence.
Certains séismes ont marqué l'histoire, ont même marqué la littérature. C'est le cas du séisme de Lisbonne, survenu le 1er novembre 1755, à 9h40 du matin. Voltaire a décrit ce séisme dans Candide.
À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant « Il y aura quelque chose à gagner ici ».
Ce séisme, Pascal Bernard, a été particulièrement violent. Selon les sources, on dénombre entre 50 000 et 70 000 victimes parmi 275 000 habitants. C'est dire la proportion de gens qui sont morts lors de cette catastrophe. Il y a eu un tsunami, des incendies. Enfin, Lisbonne a quasiment été rasée suite à ce séisme. Ça a suscité des envies de comprendre. On était, je le rappelle, en 1755. On ne connaissait pas bien le phénomène à cette époque-là. Ça a suscité l'envie de comprendre davantage ce qui se passait.
On connaissait le phénomène, mais on ne le comprenait absolument pas. Et là, ça n'a pas beaucoup aidé parce que le phénomène, la source était en mer et donc il n'y avait pas de traces terrestres à part l'effet de la catastrophe elle-même. Et donc ça a attiré évidemment tous les savants et philosophes de la planète, et essentiellement de l'Europe. Donc même Kant a fait des analyses de cette chose-là en disant ben, à l'époque c'était quand même un moment où tout ce qui était explosion, vapeur et tout ça était dans la technologie naissante, et du coup les gens pensaient que c'était en fait des matières sulfurées profondes qui tout d'un coup au contact de l'eau se mettaient à exploser. Et donc ça c'était l'idée de Kant, que non seulement ces explosions créaient le tremblement de terre mais se propageaient à travers des fissures à travers toute l'Europe, et c'est pour ça qu'il expliquait que le séisme de Lisbonne a eu des effets sur les lacs et les sources aussi bien en Écosse qu'en Provence.
Parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore la tectonique des plaques, c'est pour ça finalement on est obligé d'imaginer autre chose.
Ben, on n'imagine même pas que les montagnes avaient une croissance. Donc tout reposait sur la Bible à l'époque, disons dans la société occidentale. Et donc on n'avait absolument pas d'idée d'évolution du monde. Ça, c'est venu un siècle plus tard. Enfin, les idées commençaient à se mettre en place fin 18e. Et c'est le 19e qui a vraiment mis la consécration de ces idées sur la contraction du globe, la surrection des montagnes et le lien entre la formation des montagnes et la sismicité. Mais il a fallu un siècle pour y arriver. Et encore pratiquement un siècle pour arriver à faire la preuve de la connaissance du moteur de tout ça, la tectonique, en 1960.
Ouais. Heureusement, maintenant, on comprend beaucoup mieux les choses. C'est pas pour ça qu'on arrive à les prédire, ces séismes. On va avoir le temps d'en parler avec vous, Pascal Bernard. Vous nous emmenez à la découverte des séismes, le temps d'un bivouac. Et puis, dans un instant, nous allons nous intéresser à ce fameux Big One. Ces fameux Big One, tremblement de terre cataclysmique qui menace, entre autres, le Japon ou encore la Californie. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur France Inter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
Ça se perd, ça se délite. On a changé de satellite. Le froid derrière la fenêtre me pénètre et ton visage brumeux qui part au mieux. Pourrais-je me défaire de toi? Tes yeux m'accrochent.
C'était Ondulation, Burning Peacocks sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Le séisme de Sendai au Japon était considéré comme l'un des 5 séismes les plus puissants depuis les années 1900. Sa puissance était telle que l'île principale du Japon a été déplacée de 2,50 m. Ce n'est qu'un parmi les 1,3 million de tremblements de terre qui se produisent tout autour du globe chaque année. Le plus grand ayant été enregistré ici, en Amérique du Nord, à Anchorage, Alaska, en 1964. Magnitude 9,1. La Terre a tremblé 5 minutes, sans interruption. L'énergie libérée était équivalente à 10 millions de bombes atomiques de la taille de celle qui a été larguée sur Hiroshima. Et ce n'est pas le plus gros séisme qu'on ait enregistré, non. Le plus gros a eu lieu 4 ans avant, au large des côtes de Valdivia, dans le sud du Chili. Un séisme de 9,5 sur l'échelle de Richter. Bam! Ce tremblement de terre a duré 11 minutes et a provoqué un tsunami d'une hauteur de 25 mètres qui a submergé Hilo, à Hawaï, à 13 000 km de distance. 13 000 km de distance.
Professeur, est-ce qu'un séisme de cette intensité pourrait se produire ici ?
Eh bien, la faille de San Andreas longe toute l'épine dorsale de la Californie. Elle représente la ligne de démarcation entre deux plaques tectoniques qui sont constamment en mouvement. Si vous ajoutez à cela le fait qu'un tel phénomène est censé se produire tous les 150 ans, et qu'il y a presque 100 ans que ça aurait dû arriver. La question qui se pose, ce n'est pas si, c'est plutôt quand.
Extrait du film San Andreas, sorti en 2015. Je suis toujours avec Pascal Bernard, auteur de Pourquoi la Terre tremble, aux éditions Belin. Les chiffres avancés dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Pascal Bernard, là, les 9,5 de magnitude, la Terre qui tremble pendant 11 minutes, les tsunamis de 25 mètres de hauteur, ce sont des chiffres réalistes ou on est en plein film catastrophe?
Non, ça a été parfaitement observé. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher en 1960. Si on regarde le séisme de Sumatra en 2004, magnitude de 8,3, il a duré au moins 7 minutes. Il a fait un tsunami géant dont on a parlé, qui a fait 200 000 morts, rien que le tsunami. Et donc on est dans des chiffres de l'effet absolument catastrophique, monstrueux de ces grandes ruptures de failles.
Mmh. Ces ruptures de failles, ce sont ce qu'on appelle le big one. C'est-à-dire on attend ces big one, enfin on les attend, on les redoute plus qu'on les attend. Ces tremblements de terre qui pourraient être absolument apocalyptiques sur certaines régions de la planète, certaines failles. Est-ce qu'ils seraient encore plus violents que ceux dont on vient de parler là?
Alors, peut-on avoir des magnitudes supérieures à 9,5? C'est pas impossible. Il suffit que 2000 kilomètres de limite de faille casse d'un coup plutôt que 1000 ou 1500 kilomètres comme les derniers très gros séismes pour avoir une magnitude un peu plus forte. Mmh. Mais on peut pas casser d'un coup plus que toute la frontière des plaques ensemble et donc c'est limité à des magnitudes 11 ou 12. Ça se calcule, mais c'est pas très intéressant.
Donc, quand on dit que l'échelle de Richter est ouverte finalement.
Elle est ouverte,
oui, mais oui, il y a quand même
avec des probabilités tellement faibles qu'on ne prend pas en compte la possibilité de séismes rarissimes.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette magnitude justement? Parce que c'est vrai qu'on est habitué à l'entendre, hein, magnitude 7, 9, on sait qu'au-delà de 9, ça commence à être vraiment des très gros tremblements de terre, mais comment on la mesure et qu'est-ce que ça représente?
Alors, la magnitude représente l'énergie développée par le séisme lors de la rupture, du mouvement des blocs de part et d'autre de la faille. Et cette énergie, elle est proportionnelle au cube de la longueur. Donc si vous avez une faille de 10 km, typiquement, quand elle va casser, mmh. elle va glisser d'un mètre, ça va prendre quelques secondes et ça va faire une magnitude 6. Maintenant, si vous avez une faille qui fait 100 km et 10 fois plus, eh bien, vous avez 1000 fois plus d'énergie et vous avez à magnitude 8. Mmh.
Ouais. Donc plus la surface, enfin la longueur de la faille qui glisse est importante, voilà, plus la magnitude est élevée et les dégâts sont importants.
Et donc à l'inverse, on peut descendre l'échelle de magnitude à magnitude 4, 2, 0, moins 2, moins 4, etc.
Ah oui, on peut descendre en dessous de 0. Quels sont alors les endroits qui sont menacés par ces fameux big ones?
Alors les big ones, c'est donc le séisme un peu maximal attendu, généralement près d'une zone où on s'inquiète de la survenue de ce séisme. Par exemple, évidemment, on pense à Los Angeles pour le big one, qui serait la répétition du séisme de 1857, un séisme de magnitude presque 8, qu'on attend dans les décennies à venir. Alors pourquoi on l'attend? Ben ça, c'est les questions de prédiction, mais c'est que le système est en train de se charger, l'élastique est tendu et on sait qu'il est à la limite de la rupture. Mmh. En gros, parce qu'on connaît l'histoire de cette faille et on connaît le taux de chargement par les mesures de géodésie par GPS. Mmh. Mais il n'y a pas que Los Angeles, il y a Istanbul par exemple, beaucoup plus près de nous, où on attend un big one. Alors c'est un big one plus modéré, mais on l'appelle big one parce qu'il va être catastrophique pour Istanbul et on a aussi une chronologie, un agenda qui fait que d'ici quelques dizaines d'années, la probabilité que ce séisme survienne dépasse 2 chances sur 3.
D'accord. 2 chances sur 3.
Dans les 30 prochaines années.
Ça aura des conséquences pour nous, jusqu'en France, ce séisme en Turquie?
Alors, les vibrations elles-mêmes, non. Par contre, les conséquences économiques pour la Turquie vont être, pour les gens évidemment, et économiques pour la Turquie, vont être catastrophiques. Et donc, ça va faire quelque chose, un problème économique européen, c'est certain.
Vous évoquiez la Californie. Parfois, on entend dire, mais ça pourrait être un bout de l'Amérique qui sombre, qui disparaît. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Est-ce que cette faille pourrait faire qu'un morceau de l'Amérique, et en plus pas des moindres, disparaissent?
Non, il faut voir chaque séisme. Même les grands séismes, ça fait des déplacements relativement modestes vu la taille des plaques. C'est le séisme de Tohoku, par exemple, qui a eu le glissement le plus de Tohoku, donc le Japon, 2011, celui qui a fait cette catastrophe pour la centrale nucléaire de Fukushima. Eh bien, c'est le glissement mesuré pour ce séisme a été de 50 mètres dans la partie qui a le plus glissé. Donc 50 mètres, c'est énorme. Oui, deux blocs rocheux qui glissent de 50 mètres sur une zone qui fait 100 km de diamètre, c'est monstrueux, ce qui explique le tsunami. Mais 50 mètres, c'est rien par rapport à la dimension d'un continent ou d'une île comme le Japon. Mmh. Donc il faut des centaines, des milliers de séismes pour qu'on ait un effet topographique ou un effet, disons, de suffisance qui fasse des montagnes ou des disparitions d'îles.
Donc vous êtes en train de dire que le Japon n'est pas menacé de disparition. Parfois on entend ça, cette idée qu'un jour il y aura un big one qui fait que le Japon s'engloutira.
Non, absolument pas. Le mouvement des plaques étant cumulé sur des milliers d'années, ne dépassant pas quelques dizaines ou centaines de mètres, on ne pourra pas faire plus que ça.
Alors le Japon est menacé, il a déjà subi des séismes. L'écrivain Paul Claudel, qui était ambassadeur de France au Japon lors d'un séisme survenu en 1923, le racontera par la suite. Il lit un texte racontant, donc c'est lui-même, Paul Claudel, qui lit ce texte racontant ce séisme auquel il a assisté en personne.
Yokohama est détruit, de la mer aux collines de Kanagawa, à l'exception d'une maison unique qui dresse gauchement près de la gare de Sakuragicho, son bloc luisant de céramique, tout est vide. La capitale de la soie a péri. De tous les brillants échevaux blancs et jaunes, il ne reste plus que quelques ballots qui trempent dans une boue immonde, quelques torsades que les coulis se sont nouées autour des reins. Toute l'œuvre des étrangers au Japon depuis 50 ans, car c'est eux qui ont fondé Yokohama et qui en ont fait le plus grand port du pays, s'est effondré en quelques heures. Tout le quartier des étrangers, toute la ligne des édifices du quai, avec ses deux hôtels remplis de passagers, se sont abattus au premier choc. Le consulat français s'est littéralement dissous. Seul se dressent encore ça et là, au milieu d'une vapeur infecte, quelques entrepôts calcinés, pareils aux fours maudits de l'antique Baal. Les deux jetées se sont effondrées, et l'on dit que le fond de la mer lui-même s'est modifié. À droite, on voit d'énormes colonnes de fumée noire. Ce sont les incendies du grand port de guerre de Yokosuka. À gauche, une montagne de bronze éclairée d'une lumière rougeâtre. C'est Tokyo qui brûle.
Pascal Bernard, la particularité de ce séisme, c'est qu'il s'est produit exactement en dessous de la ville.
Oui, à grande profondeur, à 40-50 km de profondeur, mais quasiment sous la ville de Tokyo. Et donc, les mouvements étaient extrêmement violents. La magnitude autour de 8, donc beaucoup plus modeste que celle qu'on a connue en 2011 avec le séisme de Tohoku. Magnitude 8-9, c'est 30 fois moins d'énergie, mais ça suffit pour endommager Tokyo suffisamment pour que Tokyo brûle. Et enfin, l'essentiel des destructions à Tokyo, c'est évidemment sur le port, des sédiments mous, etc., qui amplifient les mouvements, le tsunami, mais la ville qui a brûlé.
Ces récits, alors là, c'est un récit relativement récent, finalement, 1923, mais il en existe de bien plus anciens. Est-ce qu'ils aident les sismologues, justement, la mémoire de ces séismes, est-ce que c'est une aide pour comprendre ?
Oui, c'est une aide extrêmement précieuse. Il y a eu notamment, en 1700, il y a eu un grand tsunami au Japon, mais pas de séisme. Et donc, ça a un grand tsunami avec des victimes, etc. Et dans les chroniques japonaises, pas de traces de Japon, donc grand mystère. Et jusqu'au jour où, les gens sont intéressés au tsunami et se sont dit, peut-être que la faille était ailleurs, très très loin. Et donc, une des possibilités, c'était la région des Cascades, dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et en fait, cette région des Cascades peut connaître de très grands séismes, et donc on a essayé de retrouver des traces de ces séismes. À l'époque, la colonisation européenne n'était pas du tout arrivée là-bas. Par contre, des légendes amérindiennes suggéraient des choses très intéressantes. Et donc, par recoupement de ces légendes amérindiennes et de recherches sur les forêts détruites par le tsunami en question, et la datation de ces forêts détruites ont permis de caler effectivement un séisme géant en 1700, qui a donc non seulement provoqué l'inondation au Japon, mais évidemment inondé tout le nord-ouest des États-Unis, avec un séisme qui s'y reproduirait, ferait une grande catastrophe.
Ouais. C'est-à-dire qu'avec ces descriptions, on arrive quand même à comprendre ce qui s'est passé, même si on n'avait pas à l'époque les moyens de mesure que vous aviez. Absolument. On arrive à évaluer l'ampleur du séisme.
Ça donne des pistes, et suivant les zones touchées et la dimension de la zone où on a ces informations, on peut retrouver. Le tsunami de Lisbonne, c'est pareil. Le tsunami, des recherches historiques ont été faites sur les côtes marocaines pour retrouver, est-ce que le tsunami a aussi touché le Maroc ou pas. Mmh. Effectivement, les côtes nord-ouest africaines ont été touchées. Et donc ça permet de dimensionner le séisme. Mmh.
Alors, on voit, vous étudiez de façon de plus en plus finement ces séismes, mais il semble qu'il y ait toujours une chose qui vous échappe, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir des probabilités, nous dire, comme vous le disiez, pour la Turquie, il y a 2 risques sur 3 pour que dans les 30 prochaines années, un séisme majeur survienne. Mais par contre, dire, là, dans une semaine, il va se produire un séisme, il est temps d'évacuer une zone, les scientifiques n'en sont pas capables. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, la préparation des séismes se fait essentiellement en silence. Quand vous prenez un élastique, vous le tirez entre les doigts, généralement, il vous casse entre les doigts sans prévenir. Parce que l'élastique est relativement homogène, donc il n'y a pas de défaut particulier. Maintenant, si vous prenez une baguette de bois et que vous essayez de la ployer, la plier pour la casser, certaines baguettes de bois vont casser d'un coup, d'autres vont faire avant de casser. Donc les failles, c'est un peu comme ça. La croûte terrestre est extrêmement fracturée, faillie à toutes les échelles. Et lorsqu'elle se déforme et qu'on atteint des limites de rupture du système, parfois, c'est des petites ruptures qui ont lieu avant la grande, qui sont des précurseurs, des prémices de cette rupture. Le problème, c'est que parfois, il y a des tas de petites ruptures qui ne sont pas suivies de grands séismes. Et donc, on peut pas s'en servir comme précurseur fiable.
Donc, le Graal, pour vous, sismologue, ce serait de réussir à faire la différence entre ces petites ruptures qui annoncent un grand séisme et ces petites ruptures qui n'annoncent rien de grave.
Absolument,
tout à fait. Et ça, c'est envisageable d'y parvenir.
Et ça, il y a des pistes. Il faut tester des hypothèses. Il faut aussi attendre des grands séismes pour avoir des mesures pertinentes. On n'a pas assez de mesures statistiquement fiables pour les grands séismes. Il n'y en a pas tant que ça. Des 8, il y en a quelques-uns par décennie. Donc,
heureusement, heureusement, on ne va pas le regretter.
Donc,
non plus.
Du coup, les statistiques avancent lentement. Les modèles physiques sont donc moins bien contraints. Par contre, les petits séismes sont très très nombreux tout le temps. Donc on peut déjà voir dans les petits séismes quels sont ceux dont on a a priori rien à craindre parce qu'ils annoncent rien de spécial. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus.
On va s'intéresser à un cas particulier dans un instant, survenu après un séisme en Italie. Des scientifiques se sont retrouvés devant les tribunaux pour ne pas avoir su alerter la population du danger. Nous allons revenir sur cette histoire avec vous, Pascal Bernard, dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
I kinda miss my student loan. I've been sitting in the student home, sharing stories now. I sim and sipping sort of wrong. Walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers do better than me. I'm in a hurry, worry, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and you can't do sons. Up in the rubble raising trouble, what you can't do is run. And trust, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying this I should've quit but couldn't resist. And now they sit with a lark, a little luck and a wish. But trust, they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they ask why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed.
Ain't Nothing Changed de Loyal Corner sur France Inter, le temps d'un bivouac.
France Inter. 50 morts, c'est le bilan encore provisoire du sisme qui a touché L'Aquila, une ville du centre de l'Italie, la capitale des Abruzzes, située à moins de 100 km de Rome. Ce puissant séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a surpris les Italiens dans leur sommeil. Et d'ailleurs, la secousse a été ressentie dans une grande partie du centre de l'Italie. Il y a de nombreux dégâts dans cette ville médiévale entourée de montagnes, sans parler de survivants coincés sous les décombres, des nombreuses maisons qui se sont écroulées.
Nous étions donc le 6 avril 2009, Pascal Bernard. C'est un séisme important qui est survenu à L'Aquila, en Italie.
Oui, c'est un séisme important. C'est pas un grand séisme, mais c'est un séisme qui touche des villages mal construits parce que des villages anciens. Toute catastrophe est liée en fait au problème de construction.
Et il y avait eu des signes avant-coureurs de ce séisme.
Alors il se trouve que pour ce séisme, en janvier de la même année, donc 3 mois avant le séisme, il y a eu des petits séismes à peine ressentis par les gens, bien détectés par les sismomètres de l'Institut de géophysique de Rome, l'INGV. Et qui a donné l'alerte aux sismologues. Mais dans les semaines suivantes, certains de ces séismes étaient de plus en plus ressentis. Et donc, en février et en mars, l'activité sismique augmentant. Alors, rien de grave, hein, bien sûr, mais des secousses qui durent une seconde, qui font trembler les murs, qui réveillent, qui font des petites fissures, tout ça, ça faisait peur aux gens. Et donc, vers la fin du mois de mars, l'activité s'intensifie. Le 30 mars, un ingénieur du centre de physique de L'Aquila, de Grande Sasso, fait une prédiction publique sans aucune autorisation de la protection civile en disant Voilà, j'ai mesuré des choses anormales sur mes sondes radon. C'était un amateur de mesures radon, de gaz radon qui sort des fissures de la Terre. Et pour lui, c'était significatif de la probabilité élevée d'un séisme à venir dans les heures, les jours qui allaient.
Donc lui, il sonne l'alarme.
Il sort un peu de nulle part. Et il sonne. Donc les gens s'affolent. Les gens sont affolés par les petits séismes qui augmentent d'intensité. Par cette prédiction publique, mais d'un individu, voilà. Les sismologues s'en mêlent en disant, ben non, le radon, on n'est jamais sûr de ce que ça peut vouloir dire, ça peut être lié à d'autres choses, donc la prédiction de M. Giulani...
Donc, les scientifiques calment le jeu, eux disent, c'est pas si grave, ne nous affolons pas, sauf qu'effectivement, surviendra ce 6 avril 2009,
ce séisme
avec des victimes, des morts, et ces scientifiques vont être traduits devant les tribunaux de ce fait. Le 22 octobre 2012, 7 scientifiques, membres de la commission italienne Grand Risque, qui étaient donc membres de cette commission au moment du séisme, vont même être condamnés en 2012 par le tribunal de la ville, 6 ans de prison pour homicide par imprudence, et puis, le 10 novembre 2014, 2 ans plus tard, rebondissement.
Dans le procès en appel du séisme de L'Aquila en Italie, volte-face de la justice. 6 des 7 scientifiques jugés et condamnés en première instance ont été acquittés, eux qui avaient été accusés d'avoir minimisé les risques quelques jours avant le terrible tremblement de terre de 2009.
C'est une journée triste pour L'Aquila, parce qu'encore une fois, l'État s'acquitte lui-même. Ces personnes qui représentaient les autorités lors de la réunion Grand Risque sont toutes libres, toutes acquittées.
On ne comprend pas comment on peut ainsi renverser une décision qui a fait parler, bien sûr, mais qui posait la responsabilité des serviteurs de l'État. Aujourd'hui, ces serviteurs de l'État tournent le dos à nos morts.
Pascal Bernard, elle est assez unique, cette histoire, avec des habitants remontés contre les scientifiques qui n'ont pas su voir venir les choses, qui n'ont pas alerté suffisamment à temps, qui n'ont pas permis de sauver des vies. Le tribunal qui d'abord condamne, puis finalement acquitte, et la population qui reste très fâchée, qui prend un peu les scientifiques comme bouc émissaire. Vous, en tant que sismologue, comment vous avez vécu ce procès ?
C'est plus compliqué que ça. C'est que l'accusation n'est pas que les sismologues n'ont pas pu alerter les populations, mais simplement qu'ils n'ont pas bien correctement communiqué que le risque était là, présent et augmentait avec cette petite crise microsismique. En fait, il est évidemment personne ne demandait aux scientifiques de prédire d'être capable de prédire un séisme, ça personne le fait. Par contre, il y a eu plusieurs paroles malheureuses, dont une qui, je pense, qui est là. Probablement la cause de tout ce débat et de toute cette mise en justice, et d'ailleurs qui a été bien vue, parce que la personne qui a parlé a été effectivement condamné, c'est le seul condamné parmi les 7, c'est le président de la commission, qui n'est pas sismologue, et qui avait fait un interview avant la réunion de la commission. La réunion de la commission a eu lieu le lendemain d'une des secousses fortes, de la fin du mois de mars. Cette commission à huis clos avait effectivement débattu du risque élevé dans cette ville, puisque une ville mal construite, avec des petites secousses, tout ça, c'est inquiétant, bien sûr. Mais les sismologues ont dit, où le risque est élevé, mais on n'en sait pas plus. Mais De Bernardini avait fait une interview juste avant, qui n'a été diffusée que juste après les discussions de la commission. Et ce qu'il a dit, en fait, c'était en gros, écoutez, vous n'avez rien à craindre, plus il y a de petits séismes, moins vous avez de chance de voir un gros, parce que ça relâche les contraintes.
Ce qui est faux.
Et ce qui est faux, ce que les sismologues savent faux depuis plusieurs décennies, en fait, et qui n'était pas encore passé dans la culture, disons, scientifique des ingénieurs de la commission. Les sismologues qui étaient présents n'ont pas participé à cette interview, et donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir eu cette parole malheureuse, mais je crois que cette parole malheureuse a fait que beaucoup de gens qui dormaient dans les voitures depuis quelques jours se sont mis à rentrer chez eux.
Ah oui, pour se protéger d'un éventuel gros séisme, c'est un conseil qu'on donne, de dormir dans sa voiture plutôt que de dormir chez soi en cas de...
Lorsqu'on a des magnitudes 4 fortes, qui font trembler les murs plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine, et qu'on vient habiter dans un bâtiment mal construit, que l'on sait mal construit parce que c'est la maison de famille qui date de 200 ans, eh bien, effectivement, on peut dormir dans une voiture.
On va revenir à ces questions de séisme et de prévention, mais c'est le moment de retrouver le reportage sur le départ de Camille Jusot en partenariat avec la revue Relief. Aujourd'hui, Camille est avec le physicien Étienne Klein qui s'apprête à prendre la route pour Chamonix. Il charge le coffre de sa voiture, de son matériel d'alpinisme, d'un vélo de montagne et de ses livres. À Chamonix, il compte bien vivre les moments de physique ascensionnelle au sommet de la montagne.
Ça fait déjà deux, un sac, une valise. Il n'en reste plus que deux et un vélo.
Vous êtes prêt ?
Oui, enfin presque prêt. Ça, c'est plutôt pour le trail, avec un sac qui permet d'emporter le matériel obligatoire, les petits bâtons, etc. Le baudrier pour l'alpinisme. Les affaires d'alpinisme, elles sont dans la grosse valise. Violet, crampons, etc. Et là, c'est des livres, parce que je travaille sur un livre. Chamonix, c'est un endroit idéal pour écrire, puisque après une bonne course en montagne, on a l'esprit reposé et on est plus créatif. En tout cas, moi, j'ai vraiment ce que Nietzsche appelle un psychisme ascensionnel, c'est-à-dire une force motrice qui est plus puissante quand il s'agit de monter que quand il s'agit de descendre. Alors, il reste deux sacs, deux baudriers. Ça fait, je sais pas, 25 ans que je vais à Chamonix pour les vacances. Et c'est une espèce de rite qui ne crée aucun sentiment d'habitude. C'est assez spécial. C'est assez mystérieux tout ça. Et je trouve que les différents sports, qui sont toujours des sports d'endurance, hein, moi je pratique que ça, ça apprend beaucoup de choses. Et c'est presque une leçon philosophique. Quand on fait l'ultra-trail, par exemple, au début, il y a une sorte d'unité entre le physique et le mental. Ouais. Il y a une sorte de monisme de l'être. Tout va ensemble. Et puis au bout de quelques dizaines de kilomètres et quelques cols, il y a le corps et l'esprit qui se désolidarisent. Et la question devient qui va prendre le pouvoir, quoi. Salut, ça va ? Je pars en vacances, hein. Moi, je suis pas du tout d'une famille de montagnards. J'ai rencontré la montagne très tardivement, j'ai un peu honte, vers 22 ans, je crois. Et quand je suis arrivé, c'était pour faire le tour du Mont Blanc. J'ai eu une sorte de coup de foudre et j'ai compris que c'était un truc pour moi. Mais à l'époque, je n'envisageais que la randonnée. Alors, quand on fait un sommet un mythique, qui a une histoire, dont la conquête a marqué l'alpinisme, ça crée une impression supplémentaire. Moi, j'aime bien les sommets qui ont justement une histoire, parce que les refuges parlent de cela. Si on a lu un peu de récits sur ces questions-là, ça enrichit l'imaginaire. Donc, on ne peut pas reproduire le passé. C'est toujours un peu différent. Mais c'est toujours une source d'inspiration. Quand on voit le matériel qu'ils avaient, quand on se souvient qu'ils n'avaient pas de prévision météo, par exemple, qu'ils n'avaient pas besoin de contacter la vallée, on est encore plus admiratif.
Le trajet en voiture aussi, c'est déjà...
Tant que je suis sur la 6, non. Puis après, on prend la 40. Et là, on voit apparaître des premiers sommets. Pas des sommets, mais disons, ça se vallonne un peu. Puis il y a le moment où on arrive au niveau du Fayet, là, et on voit la rampe qui monte à Chamonix. Et là, ça sent quand même sérieusement les vacances.
Alors là, il pleut à Paris. Vous allez attraper du beau temps à Chamonix. Vous avez regardé
non,
la météo?
Non, c'est pourri. Mais quand c'est pourri, ça n'empêche pas de faire des choses. On peut pas tout faire, mais on peut au moins faire du vélo et on peut au moins faire de la randonnée. Il faut dire que ça commence à sentir sérieusement le départ.
Bonnes vacances à Étienne Klein et merci Camille Jusot. À la semaine prochaine. Pour ceux que les particules quantiques et l'histoire des sciences intéressent, Étienne Klein dévoile quelques-uns des mystères de la physique dans un aparté à lire dans le numéro 5 de la revue Relief, partenaire du temps d'un bivouac. Pascal Bernard, vous êtes fan de montagne, en plus des séismes, il vous arrive de partir en montagne, vous aussi ?
Oui, mais pour me promener, tout à fait.
Oui, oui. Alors, en France, hein, dans les régions françaises montagneuses, vous nous avez dit, les reliefs, ils sont le signe, même si on n'est pas au niveau de faille, de l'action tectonique. Est-ce que ça veut dire que ces zones sont sujettes au séisme ?
Bien sûr, ces zones sont sujettes au séisme. En France, la plupart des séismes sont dans les zones un petit peu montagneuses. Alors, il y en a aussi, curieusement, en Bretagne, qui n'est pas spécialement connue pour ses hauts sommets, parce qu'il y a d'anciennes failles encore un petit peu actives. Et toutes ces zones de relief de montagne, effectivement, sont des zones où la croûte continue de se déformer très lentement.
Ouais.
Trop peu lentement pour qu'on le mesure bien par la géodésie, mais le signe de cette déformation, c'est précisément les petits séismes, mais parfois les gros quand même.
Donc il pourrait survenir un séisme important sur le sol français, en France métropolitaine ?
Il y en a eu historiquement, donc on connaît de nombreux. Il y a en gros un séisme destructeur par siècle, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs, quelques siècles, et d'autres où des siècles échappent à ça. Mais ça, c'est la France métropole, il ne faut pas oublier en particulier les Antilles, qui ont un potentiel sismique bien plus important que dans notre hexagone européen, avec des magnitudes non pas 6, 6,5 comme on les attend en France une ou deux fois par siècle, mais plutôt des magnitudes 8, 8,5, voire plus, question. On ne sait pas si on peut avoir plus.
Est-ce qu'il peut se produire un séisme à un endroit qui n'a jamais été frappé par un séisme, à ce qu'on sache ?
Disons, oui, c'est pas impossible, mais la probabilité, quand même, en est très faible. Il y a actuellement tout un débat sur cette question-là, sur le centre des plaques, justement, au cœur de l'Asie, au cœur de l'Amérique, au nord de l'Europe. Et ça peut arriver, le fait que la déglaciation ait décomprimé les roches fait que les failles se sont mises à retravailler alors qu'elles étaient tranquilles depuis des centaines de milliers d'années. Tout d'un coup, clac, depuis 7-8 000 ans, ça se retend.
C'est en perpétuelle évolution. Allez, suite et fin de notre discussion dans un instant. Nous allons nous intéresser au tsunami. Et puis vous répondrez aux nombreuses questions des auditeurs qui sont arrivées à votre attention sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirées par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lousulider. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, des jeunes, que
foule sentimentale, c'était Alain Souchon, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Voir dans l'océan, au large des côtes, des vagues de faible hauteur et de très grande longueur d'onde filer à la surface de l'eau, à peine visibles, à une vitesse qui peut atteindre 900 km à l'heure. Puis, près des rivages, elles ralentissent et se dressent soudain à plusieurs mètres, parfois à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. On dit que les pêcheurs au large ne voient rien de particulier. Puis, de retour au port, ils découvrent le désastre. Tsunami. Tsu, le port. Nami, les vagues. Les vagues qui arrivent dans le port. Les vagues qui submergent le port. Le nom qui, au Japon, décrit un raz-de-marée.
Jean-Claude Amezen qui passe une tête dans le temps d'un bivouac. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez toujours écouter Jean-Claude Amezen le samedi matin pendant l'été. Il y a des rediffusions de son émission sur les épaules de Darwin. Pascal Bernard, auteur de Pourquoi la Terre tremble aux éditions Belin. Le lien entre tremblement de terre et tsunami, il n'est pas si évident que ça parce qu'on a souvent associé les deux tout au long de cette émission, mais c'est pas systématique. Tremblement de terre sous-marin ne signifie pas tsunami.
Non, absolument pas. La façon la plus simple de faire un tsunami qu'un tremblement de terre, c'est que la faille qui joue fasse monter un bloc sous l'eau. Alors, parfois, les failles qui jouent font coulisser les blocs horizontalement. Donc, sous l'eau, il se passe rien de spécial. Et puis, l'autre condition, c'est que le bloc qui monte suffisamment. S'il monte de 10 cm ou même de 50 cm, ça fait pas grand-chose. Il faut qu'il monte de plusieurs mètres sur des dimensions de dizaines de kilomètres pour que ça fasse un tsunami.
C'est ce qui explique que souvent on entend alerte au tsunami, on l'entend dans les informations, il y a eu un séisme sous-marin, alerte au tsunami, et finalement l'alerte est levée sans que le tsunami ne survienne.
Oui, parce que les ondes sismiques qui proviennent du séisme arrivent très rapidement, à 6 km par seconde, donc elles sont détectées très vite, elles sont analysées en quelques minutes, et donc en quelques minutes, disons 5-10 minutes, on a déjà une petite idée de la magnitude et du lieu. Ensuite, on devine, est-ce que c'est profond? S'il est profond, la déformation ne va pas beaucoup toucher le fond marin. Si c'est superficiel, ça peut avoir un gros effet pour une magnitude donnée. Et ensuite, la magnitude, elle est incertaine.
Allez, quelques questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous, Pascal Bernard. Julien qui vous demande, serait-il possible de démythifier la légende urbaine selon laquelle volcanisme et séisme sont toujours associés? Est-ce que c'est vraiment une légende urbaine?
C'est une légende urbaine au sens où ils ne sont pas toujours associés, mais ils sont associés au sens où, dès que vous avez une éruption volcanique, en fait, les premiers signes de l'éruption, justement, c'est les micro-séismes qui proviennent de la fracturation des roches par la montée du magma et des gaz, la pression des gaz. Donc le volcan se fracture, mais en même temps, le volcan, c'est un édifice d'une dimension limitée, de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. Les très grandes failles, ça fait 100 000 kilomètres. Donc on voit bien que l'échelle n'est pas la même. Et donc les très grands séismes vivent tout à fait indépendamment de l'activité volcanique.
Ah, une question intéressante aussi de Jean-Paul. Est-ce que les animaux sauvages et domestiques pressentent ces catastrophes sismiques? On entend souvent l'idée pour le tsunami de Sumatra en 2004 que les éléphants avaient rebroussé chemin fuyant la mer. Pour l'Aquila, on parlait de crapauds qui avaient quitté des mares. C'est un mythe ou c'est vrai ça?
Alors c'est observé effectivement, les animaux, alors il n'y a pas de magie, les animaux ressentent quelque chose, mais quoi? Et en fait, dans beaucoup de cas, on pense que ce qui est ressenti, ce sont des micro-vibrations que les hommes ne ressentent pas, que nos instruments de sismologues pourraient mesurer, mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas analysés à temps, et les animaux, eux, sont très perceptifs à ce genre de choses. Donc ils voient les micro-ruptures qui précèdent une éventuelle brousse.
C'est plutôt prometteur. S'ils sentent quelque chose, c'est-à-dire que nous, peut-être aussi, qu'un jour, on arrivera à percevoir ce qu'ils perçoivent. Une question d'Isabelle. Sur la page de l'émission, Pascal Bernard peut-il nous dire si l'activité humaine peut créer des séismes et de quelle magnitude? Vous y consacrez un chapitre dans votre livre Pourquoi la Terre tremble.
Oui, l'activité humaine crée des séismes et de plus en plus des séismes qui sont liés. Ça peut être les barrages, les grands barrages produisent une sismicité généralement modérée, mais ça peut dégénérer en magnitude comme en Inde en 1960. 7 de mémoire, Koina, magnitude dépassant 6 avec plusieurs centaines de morts. Ça peut être aussi l'injection d'eau sale issue du pompage du pétrole et des gaz de schiste. Aux États-Unis, la sismicité est multipliée par 4 depuis 2004. Au cœur des États-Unis, là où on ne connaît pas d'activité sismique, maintenant il y a des magnitudes 5,7, 5,8. La géothermie aussi. La géothermie produit des magnitudes 3,5, 4.
Alors Pierre vous demande s'il existe des sites pour suivre les séismes en Europe. Il en existe et on mettra des adresses sur la page de l'émission. C'est promis, on en trouve d'ailleurs aussi dans vos livres de ces sites. Pourquoi la Terre tremble aux éditions Belin. Merci à vous Pascal Bernard. Et dans un instant, nous retrouvons Jean-Louis Gouraud, écrivain voyageur. Bonjour.
Bonsoir.
Il est déjà assis à la table. Il va nous parler de son amour pour le cheval. Ça fait 50 ans qu'il voyage à la rencontre des chevaux du monde. À tout de suite.